Bonjour à chacun et chacune. Camilla Grosse est heureuse de vous retrouver dans un nouveau coin de ciel avec aujourd'hui l'abbé Pierre d'Escouvement, rencontré à l'occasion du rassemblement Prier et Témoigner qui a eu lieu à Fribourg les 5 et 6 novembre dernier, qui a rassemblé plus de 1800 personnes autour du thème du pardon. L'abbé Pierre d'Escouvement nous parle ici du pardon de Dieu. Il est accompagné par le chant de Sylvie Buisset dans des extraits d'un disque intitulé « Aimer ou mourir ». Abbé Pierre d'Escouvement, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir ici à l'occasion de Prier et Témoigner, qui traite de la miséricorde divine. Qu'est-ce que la miséricorde ?
La miséricorde, c'est cette grande réalité dont parle déjà beaucoup l'Ancien Testament, à savoir que Dieu a vraiment un cœur pour la misère. C'est l'étymologie du mot, miséricorce. C'est-à-dire que la grande expérience que nous avons tous à faire un jour dans notre vie, c'est que Dieu nous aime malgré nos misères. Quand on est jeune, on s'imagine qu'on est brave, qu'il est relativement facile de vivre l'Évangile. Et puis, en vieillissant, on se rend compte que c'est vraiment difficile, qu'on est beaucoup plus jaloux, orgueilleux, susceptible qu'on l'imaginait. Donc, il faut réaliser sa condition humaine, qui est une condition de pécheur, de pauvre pécheur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous manifeste son amour à travers son pardon. Et c'est pourquoi Jésus nous dit cette phrase étonnante, que les grands pécheurs, que les prostituées et les publicains peuvent nous précéder dans le royaume des cieux, non pas à cause de leur péché, de leur prostitution, mais lorsque ces personnes se convertissent, elles réalisent à quel point elles sont aimées quand même, et elles peuvent chanter la miséricorde de Dieu beaucoup plus que les personnes qui n'ont jamais fait de grosses bêtises dans leur existence.
Est-ce que parfois l'être humain n'a pas un regard plus dur sur lui-même que le regard de Dieu qui est regard d'amour ?
C'est très vrai. C'est Satan qui essaye de nous persuader que nous sommes nuls, archi-nuls, que nous sommes des vauriens. Tandis que Dieu ne méprise jamais l'une de ses créatures. Vous savez que c'est très mystérieux. Dieu ne se force pas pour aimer les êtres humains d'un amour de miséricorde. C'est sa nature. Il est comme ça. Même en se forçant, il ne pourrait pas nous mépriser. Parce qu'il voit toujours dans l'être le plus dévoyé, le saint, le chef-d'œuvre qu'il pourrait devenir. Le 13 novembre, on va béatifier Charles de Foucault, qui a vécu comme un porc lorsqu'il était jeune. On l'avait surnommé le porc dans son école de cavalerie à Saumur, tellement il vivait comme un cochon. Et puis, à la fin, il est devenu l'ermite diaphane de Tamanrasset. J'aime rappeler que Olivier Clément, ce merveilleux théologien orthodoxe, a basculé définitivement dans la foi chrétienne en voyant la transfiguration du visage du père de Foucault dans un album qu'on lui présentait. Il n'y a que Dieu qui puisse transfigurer à tel point un visage humain.
Dieu transfigure les grands pécheurs. Il y a des pécheurs qui ont été préservés des péchés graves.
C'est vrai. C'est une réflexion que faisait saint Thomas d'Aquin en Sorbonne au XIIIe siècle. Si nous avons été préservés de grands péchés, c'est peut-être que nous étions plus orgueilleux que les autres. Et le Seigneur s'est dit, celui-là, il est tellement orgueilleux que s'il faisait de grandes bêtises, il ne les reconnaîtrait pas. Alors je vais m'arranger pour qu'il ne soit pas trop pécheur. Et c'est ce qui fait que ceux qui ont été préservés du péché n'ont pas à mépriser les Marie-Madeleine. J'ai écrit un petit livre, Ne te décourage pas, pour aider les Marie-Madeleine à ne pas se désespérer d'avoir beaucoup de mal à sortir de leur péché, d'avoir beaucoup de mal à rejoindre Maria Goretti. Je pense qu'il y a beaucoup de Marie-Madeleine dans le ciel qui chantent la miséricorde de Dieu beaucoup plus que des Maria Goretti.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fait aussi référence à Marie-Madeleine.
C'est vrai, c'est le paradoxe de la petite Thérèse qui n'a rien refusé au bon Dieu depuis l'âge de 3 ans et qui s'identifie spontanément à Marie-Madeleine ou à Saint-Augustin. Si un jour vous allez dans la basilique de Lisieux, Vous verrez que dans la crypte, les deux autels latéraux qui se trouvent dans le fond de cette crypte sont dédiés à Marie-Madeleine et à Saint-Augustin, parce que Thérèse se sentait la petite sœur des pécheurs. J'aime dire que nous sommes tous des PPP, des pauvres pécheurs pardonnés. Et j'aime dire que Jean-Paul II, qui vient de mourir, était aussi un PPP, PPP, un pauvre petit pape pécheur pardonné polonais. Tous les saints savent qu'ils ont besoin d'être sauvés de l'orgueil par la miséricorde de Dieu. On n'est pas humble par soi-même. Imaginez un saint qui serait interviewé dans son éternité. Pourquoi êtes-vous un grand saint? Oh, j'ai eu le prix d'excellence en humilité. Vous sentez tout l'orgueil qu'il y aurait dans cette réflexion. Les saints, ce sont des personnes qui sont émerveillées d'avoir été guéries de leur orgueil fondamental par une grâce très spéciale de Dieu. Et comme disait la petite Thérèse, nous ne sommes pas des saintes qui pleurons nos péchés, mais qui nous servons de nos péchés pour chanter la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas se laisser accabler par le souvenir de ses fautes, il faut s'en servir pour chanter Dieu. Sinon, nous ferons des purgatoires. Le purgatoire sert notamment à aider tout le monde à chanter. Parce que dans le ciel, on ne fait que chanter. On ne se lamente pas sur son passé honteux. On jubile. Dire que tu m'as aimé quand même. Dire que tu m'as sauvé du pire. Dire que tu m'aimes autant que les autres. Dans le ciel, il n'y a pas de mal-aimé. Il n'y a pas de jalousie. Parce que tous, nous chantons la même miséricorde de Dieu. La Sainte Vierge elle-même, dans son Magnificat, chante la miséricorde de Dieu qui l'a préservée de tout péché. Comme dit très bien le Concile Vatican II, la Sainte Vierge a été rachetée. Elle a été rachetée. Tellement rachetée qu'elle a été préservée du péché. Mais c'est la même miséricorde de Dieu.
Découvrons cette miséricorde de Dieu, nous pouvons la recevoir d'une manière très spéciale dans le sacrement de la réconciliation.
Vous me donnez l'occasion de parler d'un sacrement dont j'aime beaucoup parler. Bon, c'est une merveille. Je voudrais notamment répondre aux objections intelligentes qui sont faites contre ce sacrement. Par exemple, il y en a qui disent « Je ne vais pas me confesser parce que j'ai 40 ans et je dis toujours un peu la même chose. À la limite, je pourrais décrocher mon téléphone et dire à monsieur le curé « Même chose que la fois dernière, mon père, même pénitence, oui, mon fils. » Bon, j'aime répondre que le Seigneur vous demande pas de faire des péchés nouveaux, à moins que vous ayez une aristocrate de la confession variant le menu à chaque fois. À travers une accusation toujours à peu près la même, vous pouvez faire passer un désir toujours nouveau de conversion. Un peu comme des époux qui ont quelques années de mariage et qui font passer à travers des formules un peu les mêmes un désir toujours nouveau de s'aimer énormément. Autre objection, je ne sais pas quoi dire. Alors, il y a 36 façons de faire son examen de conscience. J'aime rappeler qu'on peut s'accuser ou s'examiner sur son point fort ou sur son point faible. Je m'explique. Vous sentez peut-être que j'ai une certaine spiritualité de la joie. Je viens de faire ma retraite personnelle, une fois de plus. Chaque fois, le Seigneur me rappelle que je dois m'efforcer de vivre le commandement de saint Paul, « Soyez toujours joyeux ». Donc, j'ai plutôt une spiritualité joyeuse. Mes amis disent que je suis plutôt joyeux. Mais lorsque je me confesse, je me rends compte que le Seigneur m'appelle à une joie plus grande, plus sereine, plus habituelle, plus constante. Donc, je m'accuse de ne pas être suffisamment joyeux. C'est mon point fort et mon point faible. Une personne qui sera très disponible à son prochain, qui est une merveille de disponibilité, va s'accuser sans scrupule de ne pas être suffisamment disponible. Et elle a raison, parce que c'est le sillon que le Seigneur lui demande de creuser. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes façons de faire son examen de conscience. Beaucoup de chrétiens prennent l'habitude de le faire à partir d'un mot d'évangile qu'ils sentent devoir vivre d'une façon plus forte. Autre objection, je trouve que c'est trop humiliant de me confesser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que je dois raconter mes péchés à un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu ? Si l'on comprenait davantage ce qu'il est, on ne ferait pas cette objection. D'abord, dites-vous que, on peut dire que tous les prêtres du monde sont un peu les mêmes, ils ne se sentent jamais supérieurs à quelqu'un qui s'accuse de gros péchés. Moi, j'ai entendu toutes sortes de choses dans ma vie, je n'ai jamais été tenté de mépriser une seule seconde qui que ce soit, parce que j'admire beaucoup plus la sincérité avec laquelle une personne s'accuse de gros péchés que ce qu'elle peut dire par ailleurs. Bon, donc, l'humiliation, et puis on a toujours le droit d'aller se confesser à quelqu'un avec lequel on se sent plus à l'aise. Et puis surtout, il faut comprendre que ce que l'on vient dire au prêtre dans la confession, c'est une merveilleuse chose. C'est « Seigneur, je crois que tu m'as complètement bouleversé le cœur. J'avais un cœur de pierre, je ne voulais pas prendre au sérieux telle phrase évangile, et au cours d'une homélie, d'une eucharistie, d'une oraison personnelle, je sens que je dois changer, que je dois demander pardon à ma femme, par exemple. » Et donc vous venez dire quelque chose de très beau. Vous ne venez pas simplement déclarer une liste de péchés à faire effacer sur une ardoise. Et j'aime raconter, pour illustrer ce fait, ce qui m'est arrivé un jour à la frontière belge. J'habite le diocèse de Cambrai, où il y a beaucoup de paroisses limitrophes de la Belgique. Une personne, c'était une époque où la douane existait encore, une personne me dit à la suite de sa confession, « Mon père, je n'ai plus rien à déclarer. » Elle se croyait à la douane. Ce n'est pas une déclaration en douane, c'est une déclaration d'amour. Vous venez dire au Seigneur, par l'intermédiaire d'un prêtre, votre désir de changement. Donc, beaucoup de jeunes se réconcilient avec le sacrement lorsqu'ils réalisent que ce qu'ils viennent dire au prêtre, c'est quelque chose qui fait l'admiration du prêtre et du Seigneur. « Mon père, j'ai envie de prendre l'évangile au sérieux. Je suis déjà converti. Si je vais me confesser, c'est que j'ai déjà l'envie de changer. »
Découvrement, quand on va demander pardon au Seigneur devant un prêtre, on va surtout lui exprimer le désir de l'aimer et de recevoir son amour qui guérit.
Oui, alors ce qu'il y a de plus mystérieux dans le sacrement de pénitence, c'est que nous recevons vraiment une grâce dans la deuxième partie du sacrement. Dans la première partie, c'est le pénitent qui exprime, comme je viens de le dire, son désir de changer, sa contrition, un mot qu'on n'emploie peut-être plus tellement, mais qui est merveilleux, qui veut dire que j'ai le cœur complètement trituré, remué par Dieu. Mais dans un deuxième temps, après l'exhortation du prêtre qui est plus ou moins longue, je reçois l'absolution. Et là, il y a un mystère auquel on ne réfléchit pas suffisamment. C'est vraiment Jésus ressuscité, présent par l'intermédiaire de l'un de ses prêtres, qui va faire un travail extraordinairement important dans le cœur de celui qui se confesse. Je ne sens rien, mais je crois que Dieu me transforme comme lorsque je reçois le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire que c'est Jésus qui s'approche vraiment d'un membre de son Église pour le purifier, pour l'assouplir, pour le réjouir, pour le transformer, pour le guérir. Si les chrétiens ne profitent pas assez du sacrement de réconciliation, c'est qu'ils ne croient pas assez à cette présence agissante du Christ. Vous savez que les sacrements agissent dans la mesure de notre foi. Plus nous les abordons avec foi, plus le sacrement produit son effet. Par conséquent, il faut y aller pour que Jésus puisse agir puissamment. J'aime rappeler que lorsque je me confesse, c'est Jésus le plus heureux. Viens ici, mon petit père, que je te transforme le cœur. Étends-toi sur le billard et moi je vais faire du bon travail. J'ai compris cela davantage un jour où j'ai accepté d'aller assister à des opérations chirurgicales dans une clinique et j'ai vu ces messieurs opérer avec une joie de chirurgien. Et voici que je te coupe, que je te recoue, c'est leur métier. Eh bien, quand je vois une célébration pénitentielle, quand je vois des prêtres disséminés à travers l'église pour confesser, je me dis, Jésus, il est là, et il a un plaisir divin à faire son travail. Il y a une transfiguration qui se fait. Alors, la Bible utilise différents langages, c'est une transfiguration, c'est une métamorphose, c'est une guérison, c'est une conversion. Toujours est-il qu'il faut que je croie à cette transformation qui s'opère par les mains de Jésus, car je crois profondément, j'ai même écrit un petit livre là-dessus, Les mains de Jésus, que Jésus ressuscité n'a pas seulement un visage pour nous regarder et nous sourire, il a des mains pour nous transformer.
Mais alors, si Jésus nous transforme dans le sacrement de la réconciliation, comment comprendre que nous retombions à chaque fois?
À cela, je pense qu'on peut donner deux réponses. La première, c'est sans doute que nous manquons de générosité et nous ne prenons peut-être pas suffisamment une résolution précise que nous devrions prendre dans chaque confession. Je prends la ferme résolution de faire un progrès sur ce point-là. Mais ne prenez jamais comme résolution, mon père, aujourd'hui, je prends la résolution de ne plus jamais me confesser tellement je suis sûr de ne pas recommencer. Donc, je prévois qu'étant donné ma faiblesse profonde, je retomberai dans cette ornière tout en prenant la résolution de faire un progrès. C'est là la juste attitude à conserver. Savoir que je serai pécheur jusqu'à la fin de ma vie, mais que je peux faire un progrès. Et puis savoir surtout que c'est surtout au moment de ma mort que je dirai à Dieu le pardon qu'il attend depuis toujours. Pourquoi demande-t-on à la Sainte Vierge de prier pour nous à l'heure de notre mort? Parce que c'est l'heure la plus importante de notre vie. J'ai vu mon papa mourir sous assistance respiratoire dans une clinique. Il était dans le coma. Mais je me disais, bientôt papa, tu vas faire l'acte le plus important de ta vie. Au moment de la mort, il y a un éclairage énorme qui nous est donné sur notre misère, mais en même temps, nous voyons la miséricorde de Dieu plus grande que jamais. Et c'est à ce moment-là que je fais l'acte décisif de ma vie. Il faut beaucoup expliquer aux personnes du troisième âge que l'essentiel de leur vie est devant elles. Comme dit Victor Hugo, qui n'a pas dit que des bêtises, « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. Je me verrai orgueilleux comme jamais je ne l'ai vu, mais en même temps, Dieu m'apparaîtra plus miséricordieux que jamais, et donc je devrai... dire une espèce « Oh Seigneur, je ne savais pas que j'étais si bête et orgueilleux que cela, pardon. Même si je me suis confessé 3 minutes avant de mourir, je devrais encore demander pardon au moment de ma mort. » Vous voyez, il est là, c'est le grand moment. Les chrétiens pensent que la grâce essentielle qu'ils reçoivent, ils la reçoivent au moment de mourir. On appelle cela, en termes techniques, la grâce de la persévérance finale. Ce qui peut nous aider à comprendre cela, c'est l'expérience de ceux qui ont failli se noyer. On appelle ça l'hypermnésie des noyés. J'ai fait classe pendant toute une année à un garçon qui était très sportif. Il nageait très loin dans la mer, il a failli se noyer. Il nous a raconté qu'il a revu en une seconde tout son passé. Ça peut nous donner une idée, une vague idée, de ce qui se passera pour tous au moment de la mort. Nous serons tous tentés de désespérance. Parce que nous verrons à quel point nous étions beaucoup plus pécheurs que nous n'imaginions. Et donc à ce moment-là, il faudra que nous recevions une grâce extraordinaire de confiance, d'espérance, pour dire « Seigneur, pardonne-moi quand même ». On se confesse pour se préparer à cet ultime pardon que l'on doit dire à Dieu au moment de sa mort.
En quelque sorte, durant notre vie, nous prenons l'habitude de demander pardon à Dieu et de recevoir son pardon.
Vous avez tout compris. C'est une espèce d'entraînement. Bon, ce n'est pas que cela. Il y a une purification, mais c'est aussi un entraînement à cette ultime confrontation avec la miséricorde de Dieu.
Est-ce que c'est une habitude de la relation d'intimité qui ne finira pas au bout de la vie?
Oui, toute la vie chrétienne est une relation d'intimité nuptiale avec le Seigneur. Nous oublions trop que dans les sacrements, c'est l'époux qui guérit son épouse. L'Eucharistie, c'est un repas nuptial où Jésus embrasse son épouse. Nous sommes tous aimés d'un amour nuptial. C'est la raison pour laquelle je dis que je mets de temps en temps un tulle de mariée à mon antenne de voiture pour me rappeler que je suis en voyage de noces avec Jésus. Jésus même, je devrais y croire davantage, j'y crois, mais priez pour que j'y croie davantage. Jésus même avec la tendresse d'un époux qui admire sa toute belle. « Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmante ton visage. » Nous serions beaucoup plus heureux et beaucoup plus chrétiens si nous osions croire que Dieu nous admire. Beaucoup trop de chrétiens s'imaginent que Dieu se contente de les supporter, qui fait sa béa en nous regardant et en nous aimant. Non, Dieu nous admire. Dieu est capable de nous admirer. « Comme un mari tire joie de son épouse, ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi, » dit le prophète Isaïe. Il y a une admiration nuptiale. Hein? Regardez les religieuses, par exemple. Comment une religieuse peut rester pendant toute une année dans un couvent? Je l'ai dit la fin dernière aux Carmélites de Lisieux. Mes sœurs, vous avez besoin d'un homme dans votre vie. Et vous l'avez, c'est Jésus. Jésus est votre époux. Seulement, il y a beaucoup d'épouses qui se plaignent d'avoir un époux qui travaille dans une multinationale et qui n'est jamais là. Tandis que votre époux travaille lui aussi dans une multinationale, il en est même le patron. Il est le patron de la multinationale de l'Église et il est toujours là. C'est ce que chante Thérèse dans l'une de ses poésies. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. Le Seigneur est un époux qui ne quitte jamais son épouse. Il est toujours avec moi. Si je me réveille la nuit et que j'ai une insomnie, je pense qu'à côté de moi, le Seigneur Jésus est là avec son bon sourire et il me dit « Petit Pierre, fais-moi un petit sourire parce que sinon il y aura une incohérence dans ta chambre à coucher. Je suis là comme un époux en train de te sourire. Fais-moi ton petit sourire à 4 fois 95. Hein ? Vous avez raison de me parler de cette relation d'intimité. Il y a une intimité entre le Seigneur et chacun d'entre nous. Ce n'est pas de l'individualisme, vous connaissez le mot célèbre de Newman, « my creator and myself », mon créateur et moi-même. Ce n'est pas parce que l'on pense aux milliards d'hommes que nous devons porter dans notre prière, que nous devons oublier que nous avons tous une relation personnelle avec le Seigneur. C'est le problème de beaucoup d'évangélisateurs, beaucoup de prêtres, ils sont tellement préoccupés par leurs brebis, par leurs ouailles, vous savez que le mot « ouailles » vient de « oves » qui veut dire « brebis », ils sont tellement préoccupés par le troupeau qu'ils ont à gérer, à gouverner, à nourrir, qu'ils oublient qu'ils sont d'abord les compagnons de Jésus. Quand je prêche une retraite sacerdotale, j'aime rappeler aux prêtres la définition de l'apôtre qui a été donnée par l'apôtre saint Marc. Jésus en choisit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Avant d'être des prédicateurs, les prêtres sont des compagnons de Jésus, sont des amis de Jésus. Ils sont appelés à vivre dans une intimité amoureuse avec Jésus. On ne devient pas prêtre d'abord pour prêcher, mais pour vivre davantage avec lui. Même si l'on n'est pas jésuite, on fait partie de la compagnie de Jésus.
Au cœur lumineux de Jésus, splendeur d'un nouvel orient, dans ta lumière, je viens guérir de
Vous disiez hier soir qu'il est bon d'être fragile, qu'il y a une joie à être fragile.
Oh, mais je m'aperçois que vous avez parfaitement écouté mon enseignement. C'est vrai qu'il y a une joie à avoir absolument besoin du Seigneur Jésus. C'est le sens de l'enfance spirituelle mise en valeur par la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Mais c'est une grande constante. Saint François de Sales, que vous aimez beaucoup ici en Suisse, bien sûr, Saint François de Sales disait joliment, en reprenant un mot d'Isaïe, « Le Seigneur mène au repos les brebis, il porte sur son cœur et sur ses épaules les brebis fragiles, les agneaux fragiles. » Il y a une joie à avoir absolument besoin du Seigneur, à avoir besoin d'être soutenu, d'être porté par ses mains toutes puissantes de chirurgien et de pasteur. Le chrétien profite de la conscience de ses tentations pour se précipiter un petit peu plus dans le Seigneur. Je dis volontiers que les plus belles oraisons que nous les faisons au moment de la tentation. Bon, je suppose que je viens de faire une homélie pendant la messe. Je viens de prêcher sur l'humilité, par exemple. Bon, et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, je suis un bon prédicateur, les gens ont ri comme il fallait, vraiment, je suis un bon prédicateur. Je viens de faire un sermon sur l'humilité et je me prends en flagrant délit d'être orgueilleux. Que voulez-vous que je fasse? Je ne vais pas essayer de me prouver que je ne suis pas orgueilleux. Mais je vais dire, tu vois, Seigneur, après des années et des années de méditation de Sainte Thérèse, j'en suis encore là. Eh bien, Seigneur, tu vas me guérir. Je ne me résigne pas à mon orgueil, mais je n'en fais pas non plus tout un plat. Je sais que le Seigneur, il est le Sauveur et que j'ai absolument besoin de lui pour réussir ma vie. C'est pour ça que j'aime le livre du Père Molinier intitulé « Le courage d'avoir peur ». Le chrétien a le courage d'avoir peur du diable, d'avoir peur de rater sa vie. Le chrétien prend très au sérieux le dernier mot du Notre Père, « Par-dessus tout, Père, délivre-nous du malin, délivre-nous du diable. Le diable veut me faire rater ma vie, Heureusement que tu es là pour me tenir. Donc c'est au cœur de mes tentations, quand je sens que je suis encore tenté une fois de plus de tomber dans je ne sais quel travers, dans ce quel péché, dans ce quelle faiblesse. Seigneur, tiens-moi bien. Cœur sacré de Jésus, je ne compte que sur toi pour être sauvé. Le chrétien dit comme le publicain de la parabole, Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. Lorsque je prends pour la énième fois la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, cela plaît énormément à Dieu. On lui plaît tout autant en criant sa misère qu'en chantant sa gloire.
Le Seigneur, au-delà de la mort, nous attend les bras ouverts. Nous pouvons nous jeter dans ses bras, comme le dit la petite Thérèse.
Oui, ça c'est vrai. Je dis volontiers qu'il ne doit pas y avoir de porte au paradis. On fait beaucoup d'histoires sur Saint-Pierre hein, qui tient les clés des portes du paradis et qui ferme la porte à certains pour l'ouvrir à d'autres. Je pense que les portes du paradis n'existent pas. Dieu a les bras grands ouverts pour accueillir tout le monde. Le drame, c'est qu'il y a peut-être des gens qui, par orgueil, refusent de tomber dans les mains de Dieu. Vous savez que ce n'est pas Dieu qui damne, c'est Dieu qui, hélas, ne peut pas forcer quelqu'un à se jeter dans ses bras. S'il y a quelqu'un en enfer, et il semble bien qu'il y en ait, étant donné les visions qu'ont pu avoir une Thérèse d'Avila ou une sœur Faustine, ce sont des personnes qui sont tellement orgueilleuses qu'elles ne veulent pas demander pardon à Dieu, qu'elles ne veulent pas recevoir le pardon de Dieu, alors que lui, il est toujours, on peut dire et on doit dire que Dieu ne cesse de pardonner aux damnés. Mais ce sont les damnés qui ne veulent pas recevoir ce pardon, quel mystère. Vous savez que le plus grand mystère peut-être qu'il soit, c'est le mystère du diable. Comment Dieu peut être éternellement heureux avec des anges déchus qui refusent éternellement son bonheur? C'est sans doute le plus grand mystère, c'est la raison pour laquelle il est si souvent contesté. On a tendance à dire qu'il n'y a personne en enfer, que Satan c'est un simple symbole. Non, non. Bon, dans les exorcismes d'ailleurs, Satan se manifeste d'une façon presque visible. Voilà, donc il y a une joie effectivement à être fragile, à savoir qu'on a besoin de Jésus comme sauveteur, pour ne pas tomber dans le naufrage de l'orgueil et de l'enfer.
Abbé Descouvement, merci beaucoup pour votre intervention, votre témoignage. J'espère et je me réjouis de vous retrouver un jour pour l'éternité dans l'amour du Christ.
Alors dans l'éternité, je pense que je serai entre Madame de Cro-Magnon et de Gaulle. Vous voyez, nous aurons des conversations très intéressantes. Et toi Charles, qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? Qu'est-ce que t'as dit au général Massu lorsque tu es allé le voir? Et toi Madame de Cro-Magnon, comment faisait-il la cuisine? Parce que le grand mystère, c'est que le corps de Jésus que je tiendrai tout à l'heure dans l'Eucharistie, c'est la plaque tournante par laquelle passent toutes les grâces de Dieu. Voyez, toutes les personnes qui ont vécu avant Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit par le corps de Jésus, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate et qui est à jamais ressuscité. Jésus, c'est vraiment le Christ, celui qui est tellement au loin, pénétré, rempli de l'Esprit-Saint, qu'il peut le dispatcher sur toutes les personnes. Nous sommes sauvés par un corps. Ce serait une autre interview à faire de montrer que le christianisme accorde une très grande importance au corps. Nous ne sommes pas seulement sauvés par un message, fût-il celui des béatitudes, nous sommes sauvés par le corps ressuscité de Jésus.
Abbé Descouvement, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une autre interview.
Merci.
Dans cet entretien, l'abbé Pierre Descouvement a cité deux de ses ouvrages, « Les mains de Jésus » aux éditions des Béatitudes et l'autre « Ne te décourage pas, lettre à un enfant prodigue » aux éditions de l'Emmanuel. L'abbé Pierre Descouvement viendra prêcher une récollection à la communauté du Verbe de vie à Pensier, destinée aux couples et aux fiancés, dont le thème est « Vivre notre amour au milieu des difficultés de la vie quotidienne ». Cette récollection aura lieu du vendredi 27 janvier dès 18h au dimanche 29 janvier vers 15h. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler la communauté du Verbe de vie au numéro de téléphone suivant 026 684 26 58. Je répète, le Verbe de vie au 026 684 26 58. Cette émission sera rediffusée le mardi à 23h. Si vous souhaitez en obtenir une copie sur disque ou cassette, vous pouvez appeler le numéro suivant 026 422 18 91. Je répète, 026 422 18 91. C'était Camila Gross qui vous retrouvera l'année prochaine et qui vous souhaite en attendant de très belles fêtes de Noël.